Miguel Benassayag, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc avec Gérard Schmitt Les Patients Tristes à la découverte en poche, donc c'est sous-titré Souffrance psychique et crise sociale. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Gérard Schmitt est lui-même psychanalyste. Là encore, vous partez d'un constat, c'est-à-dire que vous avez un afflux de patients visiblement de plus en plus grand, des gens jeunes et qui viennent vous voir, pour le dire simplement, parce qu'ils sont malades.
Parce que il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à vivre au quotidien. Alors, c'est-à-dire, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes pas tenus en compte par les politiques, disons des métiers politiques, mais sont quand même des phénomènes politiques. C'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui ont besoin des molécules pour s'élever les matins et des molécules pour dormir le soir, que tout à coup, avec la Ritaline, on traite des milliers d'enfants et de plus en plus parce qu'on trouve que bon, on peut plus les contenir, etc. Et on voit, oui, qu'effectivement...
La Ritaline, c'est la fameuse pilule de l'obéissance.
L'obéissance, voilà, oui, tout à fait. Et c'est-à-dire que, vous savez, on dit que dans une société désacralisée, on passe de la Ritaline au Prozac. C'est ça, c'est là, à la place de Bar Mitzwa, on fait ça, quoi. Et alors, au fait, c'est-à-dire, oui, ce qu'on peut constater, c'est que, vraiment, il y a quand même, on vit dans une société où les gens, ils ont tout bêtement du mal à vivre, hein, et que la crise sociale, qu'on peut la décliner en politique, en philosophie, en sociologie, bon, etc., en culture, bien sûr, c'est une crise sociale, elle a pris corps dans les corps des individus. C'est-à-dire que, ces choses-là dont on parle quand on dit la crise de l'Occident, la rupture du socle épistémologique, aux différentes façons plus ou moins poétiques d'appeler la chose, n'est-ce pas, et ne sont plus quelque chose d'extérieur, ne sont plus quelque chose dont parlent les gens qui sont au courant et dont ils feraient le métier. Les gens vont mal, c'est-à-dire que notre société est une société qui est une société qui a peur du futur, est une société qui en très peu de temps est passée de penser le futur comme pure promesse au futur comme pure menace.
C'est votre première analyse, c'est-à-dire que si vous regardez cette société où il y a cette tristesse diffuse comme ça qui rôde, et si vous le prenez comme un symptôme, hein, après tout c'est aussi votre métier, et vous essayez de creuser jusqu'aux racines de ce symptôme, vous expliquez qu'en fait le rapport au futur, à l'idée de progrès, c'est-à-dire le futur sera toujours meilleur, nos enfants vivront mieux que nous, dans un monde meilleur, ça c'est une idée qui a été totalement battue en brèche.
Oui. Et alors, autant d'un point de vue anthropologique ou philosophique, il est très intéressant quand même d'analyser comment un mythe fondateur de toute une culture, de quelques siècles, etc., tout à coup va s'effondrer, etc. C'est très intéressant de voir comment le mythe d'un progrès linéaire peut tomber. C'est très intéressant. Autant c'est effrayant de voir qu'est-ce qui se passe quand cette crainte du futur, tout bêtement, la crainte de lendemain, devient le quotidien des petits enfants. C'est-à-dire, en pédopsychiatrie, avec les mômes, on est passé depuis déjà un bon bout de temps à essayer d'apprendre aux mômes non plus comme un désir, invitation au monde, mais sous la menace. Mmh. Hein? C'est-à-dire que les mômes, très très tôt, entendent dire que tu dois faire les devoirs parce que sinon tu seras chômeur. Et, c'est-à-dire, alors les liens entre les devoirs et le chômage restent toujours, heureusement, un peu abstraits. Mais dans la tête des mômes et de pas mal d'enseignants et des parents, c'est pas du tout abstrait. Hein, c'est-à-dire que on est menacé. Hein, c'est-à-dire, on est menacé.
Alors, donc on est menacé et surtout on est sommé de s'adapter. C'est ce que vous appelez aussi l'idéologie de la performance. C'est-à-dire qu'il va falloir être suffisamment performant, utile, intéressant pour le monde du travail, pour le monde économique, pour être accepté. Sinon, on se cognera contre le monde. Absolument. Et on sera rejeté.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Pas seulement on est dans la crainte et l'angoisse, mais on est sommé donc, et nous, alors les techniciens de la santé mentale, pour le dire comme ça, nous sommes sommés d'aider les gens à s'adapter à ces mondes anxiogènes. Hein. Alors donc, effectivement, on n'a pas le temps de faire 10 ans d'analyse, on n'a pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Il faut être efficace. Alors, effectivement, il faut quand même que les gens se lèvent le matin, il faut que les gens puissent ne pas avoir trop de symptômes qui parlent de ces mal-être. Et alors, on voit arriver comme ça des pilules miracles, des traitements miracles. Mais en fait, plus que faire des guéguerres, que moi ne m'intéresse absolument pas entre collègues, il faut essayer de comprendre ça un tout petit peu historiquement, un peu anthropologiquement, comprendre que il faut quand même à un moment donné se dire, mais est-ce que vraiment la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter ces mondes d'insécurité, ces mondes de crainte, et s'occuper de faire que les gens marchent avec. Hein. C'est-à-dire, il faut voir quand même, comme il a dit un grand philosophe français, mon voisin c'est les bruits et l'odeur, vous voyez. C'est-à-dire, comme mon voisin est les bruits et l'odeur, effectivement, vous imaginez que la solidarité, voyez, la possibilité, c'est-à-dire l'autre est mon ennemi, mais tout autre, y compris mon corps, y compris mon histoire. Alors, effectivement, c'est-à-dire, on peut pas vivre dans cette insécurité, dans cette crainte permanente, sans qu'il y ait des symptômes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces symptômes-là? Eh bien, on les écrase. Alors, nous, en tant que psy, on se dit...
vous dites que les conséquences peuvent être graves.
Oui. D'abord, on n'a pas tellement envie de que notre métier change comme ça, de bout en blanc, d'objectif sans crier gare. Hein, c'est-à-dire, et d'autre part, effectivement, alors là, il n'y a aucun problème. Plus on refoule comme ça les micro-débordements quotidiens, plus effectivement on va vers des trucs, des barbaries, des brutalités, des passages à l'acte. Et ça, je n'ai pas besoin de les énumérer pour que tout le monde sache de quoi j'en parle. Hein.
Est-ce que cette tristesse dont vous parlez, cette crise morale dont vous parlez, est aussi liée à une crise de transmission, mais aussi du côté de l'autorité? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi lié à la figure des parents, à la figure des maîtres, avec l'école, évidemment? Est-ce que ça aussi, c'est en train de changer complètement?
Voilà quelqu'un qui pose des questions en ayant lu le bouquin. Mm-hmm. Bravo. Alors donc, oui, effectivement, c'est-à-dire nous pensons quand même que il y a une sorte comme ça d'égalitarisme casse-gueule dans lequel la crise d'autorité dont on pourrait se féliciter, on dit oui, il n'y a plus d'autorité, etc., conduit à l'autoritarisme. Conduit l'autoritarisme, c'est-à-dire que effectivement l'autorité ne veut pas dire imposer quelque chose à l'autre, ça veut dire partager un destin commun, etc. Et là, effectivement, il y a un problème de transmission, c'est-à-dire aujourd'hui des millions de mômes n'ont jamais vu leurs parents s'élever pour aller au boulot, ou par exemple cette apologie de la technique du nouveau fait que les anciens, pas seulement ils n'ont rien à apporter, mais sont comme ceux qui sont à côté de la plaque. Et une fois encore, l'effet de que les choses aillent si mal dans le devenir fait que les anciens sont ceux qui sont pourris la chose. Hein, les anciens, ils nous laissent un truc un peu pouvelissé. Alors, oui, effectivement, ça pose un vrai problème d'autorité, et un vrai problème comme ça qui ne peut pas se résoudre avec des lois ou avec des karchefs, comme dirait un autre philosophe français, mais qu'il faut tranquillement et en dehors de toute idéologie, penser, oui. Je crois qu'il faut penser dans l'école, il faut penser comme ça pour aider aussi un tout petit peu les parents. C'est-à-dire qu'il y a une question autour de l'autorité qu'il faut la penser d'une façon dédiabolisée et en dehors de toute vision autoritaire. Non?
Alors vous écrivez, dans notre société, la seule chose sacrée est la marchandise et rien, pas même l'éducation, ne doit freiner le développement économique.
Absolument. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé pendant longtemps et je travaille encore avec des gens de l'éducation nationale. Alors donc, comme le monde est très dangereux, on veut armer nos mômes pour le monde. Sauf que bon, c'est-à-dire si on arme les mômes, voilà, même si c'est métaphorique, un jour il ne devient pas métaphorique. L'école était là pour aider au développement de la société, non pas pour créer des individus capables de vivre dans la loi soi-disant de la jungle, n'est-ce pas? Alors oui, il y a vraiment là un problème de ces côtés-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas armer nos mômes, pour éviter quand même que finalement, bon, on baisse les bras et on se dise, bon, sauf qui peut, ou le plus fort.
Mais là, la conséquence finalement, enfin, apparemment un peu paradoxale de tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'on navigue dans un discours du tout est possible, tout est permis, et par ailleurs, dans une peur extrême de tout, c'est-à-dire que le réel, pour parler avec un mauvais langage de psychanalyste, devient vraiment phobique.
Oui, absolument. C'est-à-dire que les messages sans cesse répétés aujourd'hui par, disons comme ça, les slogans dominants, pour dire comme ça, pour ne pas dire des mots trop dépassés, vous voyez. Et c'est-à-dire la théorie dominante, la pensée dominante dit tout est possible. Et là, en fait, on dit techniquement tout est possible. D'une part, ce n'est pas vrai, et deuxièmement, c'est très dangereux cette pensée de tout est possible, parce que si tout est possible, rien n'est réel, rien ne nous arrête, rien n'est fait asymétrie, n'est-ce pas? Et alors, on voit bien quand même que langage un tout petit peu de toute puissance, loin de libérer les gens, les met comme ça dans des crampes et dans des passages à l'acte. Alors il s'agit absolument pas de créer du sacré ou d'interdire des choses. Il s'agit simplement de voir que là, tout est possible, non pas pour les hommes, mais pour les marchandises, pour les profits. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui à l'école on n'a plus le temps de perdre le temps, de prendre son temps. Alors on veut enseigner utile. Alors l'utilitarisme, bon voilà, c'est-à-dire il faut questionner un peu l'utilitarisme, il faut questionner un tout petit peu cette soi-disant impératif économique, il faut un tout petit peu, il faut résister. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue clinicien, comme les enseignants, et non pas d'un point de vue idéologique du tout, on se dit peut-être, pour continuer à faire tout bêtement notre métier, il va falloir résister un tout petit peu, non pas pour un autre modèle, mais résister à l'ère du temps.
Mais vous avez franchement l'impression que ce qu'on vous demande justement en tant que clinicien, c'est que les gens qui viennent vous voir, qui sont malades, et puis leur famille, ce n'est plus instaurer un dialogue, instaurer une pratique analytique, même un lien, mais c'est vraiment faites-moi rentrer dans le rang de la normalité.
Oui, parce que être en dehors de la normalité provoque des souffrances très grandes. Souvent, ce qu'on considère entre guillemets une maladie ou entre guillemets un handicap, n'est-ce pas? Et la souffrance qui provoque une gêne, donc, elle est multipliée par 10, par 100, de par le fait de ne pas être dans la norme. C'est très très dur de ne pas être dans la norme. C'est très flippant, c'est très anxiogène, n'est-ce pas? Alors oui, c'est vrai, et ça n'a rien d'honteux, les gens nous demandent, oui, qu'ils ne veulent pas comprendre les pourquoi du comment, ils nous demandent d'être normalisés. Alors c'est là où on voit avancer toutes les thérapies brèves, toutes les molécules magiques, etc., qu'ils nous disent à nous, psychanalystes, aux philosophes, aux gens qui pensent, ils disent, mais nous on est efficaces. Bien entendu qu'ils sont efficaces, mais l'efficacité, elle n'existe pas en dehors d'un cadre. Ils sont efficaces pour quoi faire ? Ils sont efficaces pour que les gens puissent écraser ces symptômes-là. Alors, il y a deux choses. D'une part, les gens ne sont pas un sac à symptômes qu'il faut réduire. Et deuxièmement, ce type d'attitude ont les pattes courtes. C'est-à-dire que le retour des bâtons ne peut pas ne pas arriver à force de normaliser les gens.
Et alors, vous racontez, Miguel Benassayag, une histoire assez merveilleuse dans le livre, et c'est une histoire qui vous est vraiment arrivée, parce que c'est l'histoire d'un de vos patients, un jeune homme qui vivait dans un monde imaginaire, mais alors, c'est rien de le dire.
C'était l'empereur d'un monde.
Voilà, c'était l'empereur d'une planète, d'un monde imaginaire.
D'Orwagne, oui.
Voilà, d'un truc complètement délirant. Or, vous racontez que non seulement, alors, pour parler comme la société, non seulement il a réussi son insertion dans la société, sa réussite professionnel et en gardant cet imaginaire qui est quand même rien moins que délirant.
Oui, oui, tout à fait. C'est jeune homme, que je ne sais pas s'il écoute ou pas, mais dans tous les cas, il a réussi normal sup en physique et en mathématiques. Et la seule chose que j'ai réussi à lui dire, c'était « Monsieur l'Empereur, ne faites pas de l'enseignement, qu'il soit... » Et Monsieur l'Empereur, un jour, je vais vous dire une petite anecdote, un jour, bon, comme il faisait chaud dans les services, comme ça, je n'avais pas envie de rester... Je lui dis, bon, vous voulez pas, monsieur l'empereur, qu'on aille prendre un pot dans un bar, sortir un peu de l'hôpital? Oui, oui, on y va. Et alors, il arrive les garçons, non? Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez vous servir, monsieur l'empereur, qu'est-ce que vous voulez voir? Alors, le mec, il dit, qu'est-ce qu'il voulait? Le garçon s'en va, il me dit, quand le garçon s'en va, il me dit, écoutez, Benassayag, à moi, ça me gêne pas, mais si vous continuez à m'appeler monsieur l'empereur en public, on va vous prendre pour un fou. Et alors, effectivement, ce garçon-là n'a jamais été médiqué. Il n'a jamais été chronicisé J'ai refusé même de mettre sur son dossier...
Chronicisé quoi, pardon ?
Chronicisé, c'est-à-dire devenir en chronique, quoi.
Ah, oui,
dans un hôpital psychiatrique, en train de baver, vous voyez, c'est...
D'accord, pardon.
Donc, oui. Il n'a jamais été médiqué, jamais été médiqué. Mmh, mmh. Il n'a donc pas été enfermé. Et il a... bon, c'est-à-dire que, justement, c'est-à-dire, on a fait avec... Mais pour faire avec, il lui fallu prendre le temps. Et j'ai jamais mis sur son dossier, par exemple, un diagnostic. Hein, c'est-à-dire, j'ai tenu bon de ne pas mettre un diagnostic. À moi, il me semblait quand même douteux qu'il soit l'empereur d'une planète. Honnêtement, je vous dis entre nous, j'ai douté. Mais bon, de toute façon, je m'abstenais, quoi. Et là où ce n'est pas une blague, c'est, voilà, hein, quelqu'un qui est empereur d'une planète et qui, si... On peut ne pas avoir une vision normalisatrice, des répressions disciplinaires. Bah, le mec, il est là en train de faire une vie avec des chiffres, de la physique, tout ça.
Si j'ai bien compris, ce monsieur l'empereur est un mathématicien assez brillant.
Très brillant. On a travaillé même ensemble, un bouquin de logique mathématique que j'ai fait. J'ai travaillé avec un groupe de mathématiciens et il participait au groupe. Et ce qui est le plus drôle, c'est que c'était deux profs de la fac de physique et de mathématiques qui travaillaient avec moi. Et c'était pendant une année de travail, ils n'ont jamais compris que lui, il était soi-disant psychotique. Parce que bon, effectivement, eux-mêmes, en tant que matheux et physicien...
Bon, ben on aura fini sur une touche rassurante. Miguel Velasayac, merci beaucoup. Donc, vous avez écrit avec Gérard Schmitt ce livre, Les passions tristes, souffrances psychiques et crise sociale. Et c'est publié en poche aux éditions La Découverte. Jean-François Roger, dans ses œuvres, tout de suite.
Et plus tu désires une chose, et plus de toi... s'éloigne cette chose. C'est Baudelaire, ça. Je crois, je suis pas sûr. Je m'en fous. Comment ?